Cette émission vous est présentée par NHCO Nutrition, laboratoire français, créateur de compléments alimentaires santé, minceur et bien-être, spécialiste des acides aminés.
La sphère neuro, Célia Morès, sur Nutri Radio.
Oh Célia Morès, bonjour.
Bonjour Fabrice.
Célia Morès sur Nutri Radio, bah, meilleurs vœux madame.
Mes meilleurs vœux à vous aussi, hein. Bonne année, j'allais dire bonne année à tous et à toutes, hein, puisque ça y est, c'est la nouvelle année, enfin, j'allais dire, si je puis dire, j'espère du moins, 2025.
Bon, ça va, vous avez dessoulé un peu?
Oui, quand même, oui, puis bon, attendez, c'est avec modération, toujours avec modération, mais c'est vrai que pendant les fêtes, ne peut pas se passer d'alcool, voilà, on verra.
Oh là là, dites pas ça, mais qu'est-ce que vous dites, vous savez, on vous a vu, vous étiez dans, je rigole parce que je pense à tous vos élèves qui vous écoutent, et donc non, je plaisante, hein, évidemment, Célia Morès, toujours la bonne attitude, et par contre, je vous ai posé cette question parce que le sujet de cette rentrée que vous avez choisi, c'est l'addiction à l'alcool. Est-ce que, il y a plein de choses à dire. À quel moment on peut se dire, tiens, j'ai un problème avec l'alcool, qu'est-ce que ça peut faire? Quels sont les mécanismes aussi neurobiologiques, comme vous l'avez fait sur cette belle émission de l'addiction au tabac, consacrée à l'addiction au tabac, que vous retrouvez d'ailleurs en podcast, et puis les conséquences aussi. Donc voilà, histoire de... Puisque la bonne année, enfin le début d'année, c'est propice aux bonnes résolutions. Si jamais, de près, de loin, vous êtes concerné par cette petite addiction à l'alcool, qui peut être très grande, hein, je dis petite pour essayer de minimiser. Vous savez, quand on dit petit devant quelque chose, on a l'impression que c'est plus abordable. Eh bien, voilà, ce sera peut-être encore quelque chose qui va vous servir de déclic supplémentaire pour prendre pour passer à l'action d'une résolution peut-être à venir. Alors, alcoolé dépendant ou non, c'est bien.
Alors, il faut savoir que l'alcool, la dépendance à l'alcool, c'est très difficile finalement à le voir. Souvent, les personnes ne savent pas qu'ils sont addicts à l'alcool, c'est plutôt l'entourage qui se rend compte qu'il y a un problème vis-à-vis de l'alcool. Il faut savoir aussi qu'il y a beaucoup de problèmes d'agression par les personnes qui sont sous emprise d'alcool. Ça peut être ce qu'on appelle en one shot, c'est-à-dire quelqu'un qui est très alcoolisé, c'est à ce moment-là où elle ne va pas avoir un comportement adéquat, et généralement, les personnes qui sont victimes d'agression, il y en a une bonne partie qui sont victimes par des personnes qui sont sous l'emprise de l'alcool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est que pour l'alcool, il y a trois choses qui sont finalement pas forcément dépendantes les unes des autres. On a ce qu'on appelle le mésusage de l'alcool, c'est-à-dire l'usage à risque et mésusage de l'alcool. On a l'usage nocif et après, on a la dépendance à l'alcool. Et c'est vrai que finalement, la différence entre elle est assez mince. Mésusage, c'est quoi ? C'est lorsque la personne consomme plus de verres que ne le recommande l'OMS. Alors, l'Organisation mondiale pour la santé recommande, d'après les dernières recommandations, c'est encore actuel aujourd'hui, ça serait 3 verres par jour pour les hommes, et 2 verres pour les femmes. Alors après, ça dépend au niveau de la semaine, c'est pas tout à fait effectivement les mêmes normes, mais c'est grosso modo ça. Et il faut savoir ce qu'on appelle un verre d'alcool, hein, pour que tout le monde sache bien, c'est 10 grammes d'alcool pur. Ce qui donne qu'en fait, pour du vin, ça va être un verre de 12,5 centilitres, de la bière, 25 centilitres, mais de l'alcool fort à plus de 40 degrés, c'est du 3 centilitres. Donc, ça dépend de ce qu'on appelle le verre d'alcool. Il faut quand même bien poser les choses. Un verre d'alcool, hein, c'est pas l'alcool fort, on met pas 20 centilitres d'alcool fort, parce qu'effectivement là on n'est plus du tout sur un verre, même si on le boit dans le même contenant. Alors ce mésusage là, l'usage à risque, c'est quand des personnes, ça peut être en one shot, une personne qui va justement s'alcooliser, ça peut arriver, peut-être que pendant les fêtes, certains d'entre vous l'ont fait, ce qui est logique, mais c'est une fois de temps en temps. Mais ça peut être aussi les jeunes qui sortent de manière récurrente en boîte de nuit, le week-end ou dans les pubs, etc. Ou alors, ça peut être aussi la personne qui va être un homme ou une femme d'affaires et qui va avoir peut-être besoin de boire, ne serait-ce que pour les dîners ou déjeuners professionnels. Donc, en fait, ça va être des personnes qui vont consommer plus de 3 verres, on va dire, pour les hommes, ou plus de 2 verres pour les femmes par jour pendant un laps de temps, que ce soit en one shot ou au long cours. Donc là, effectivement, c'est des usages à risque parce que ça dépasse les normes. Le problème, effectivement, c'est que ça peut occasionner des conséquences négatives, notamment si les personnes prennent la voiture et conduisent en état d'ébriété, par exemple. Mais évidemment, dans ces conditions-là, il n'y a pas forcément de problème, il n'y a pas forcément d'addiction, de dépendance à l'alcool, et il n'y a pas de conséquences, donc ni psychologiques, ni sur la santé de l'individu. Il n'y a aucune conséquence, à part évidemment si la personne prend des risques suite à sa consommation. Ensuite, on va avoir l'usage nocif. L'usage nocif, c'est finalement totalement indépendant du nombre de verres consommés. Alors, évidemment, plus on consomme de verres d'alcool par jour, plus il y a des risques d'avoir un usage nocif et d'avoir des conséquences négatives sur la santé. Mais il y a des personnes qui consomment moins que ce que recommande recommande l'OMS, la recommandation maximale dictée par l'OMS, et qui vont avoir des problèmes de santé, des conséquences négatives. Ça peut être développement de cancer, de problèmes au niveau du foie, etc., etc., qui sont les complications liées à l'alcool. Il n'y a pas de dépendance. Elles ne consomment pas forcément plus que ce qu'il ne faudrait. Et pourtant, ces personnes-là, leur métabolisme fait qu'elles ont un usage nocif. C'est un usage problématique pour les personnes. Ensuite, il y a vraiment la dépendance. L'alcoolodépendance, ce n'est pas forcément des personnes qui vont consommer plus de 3 verres par jour, qui vont consommer une bouteille entière. Enfin, finalement, la caricature que l'on peut avoir, c'est cela, bien évidemment, puisque plus la personne boit, plus il y a des risques, effectivement, que la dépendance s'installe. Et effectivement, ça marque la dépendance. C'est tout, effectivement, les personnes que l'on peut rencontrer lorsqu'on peut prendre les transports en commun, si vous êtes francilien, ou vous voyez des personnes en état d'ébriété tout le temps et qui perdent même leur travail. Mais ça peut être aussi la personne qui ne peut pas se passer d'alcool, qui va avoir besoin de consommer son verre tous les jours. Ça va être effectivement ce type de personne-là où il va y avoir en fait un phénomène de sevrage si la personne n'a pas sa dose d'alcool. Phénomène de sevrage qui va être effectivement des tremblements, des nausées, des sueurs ou alors effectivement de l'irritabilité, un comportement inadéquat, un énervement qui peut aller parfois jusqu'à la violence parce qu'il y a un besoin d'avoir effectivement cette dose d'alcool qui peut être largement d'ailleurs en dessous de la dose recommandée, entre guillemets si je puis dire, par l'Organisation Mondiale pour la Santé.
Alors par exemple ça, moi vous savez, l'alcool, on se dit bon, on boit un verre de vin, etc. On n'est pas le... Moi un jour on m'a dit, parce que j'avais pris l'habitude il y a quelques années, il n'y a pas si longtemps que ça d'ailleurs, 2-3 ans, de prendre un verre de vin tous les soirs en me disant voilà c'est cool, mais comme vous dites donc c'est une petite dose, mais c'était plus pour le côté détente, vous savez, vraiment il n'y avait pas d'énervement machin, mais détente. Et un jour on m'a dit ah mais tu prends un verre de vin tous les soirs, je dis oui, bah, t'es alcoolique, je dis mais n'importe quoi, ce mot il a résonné en moi dans ma tête, et je dis et le lendemain, donc du coup j'en ai pas pris, j'ai pas ressenti de manque du tout, je me suis dit c'est dommage parce que c'était associé à un truc de détente. Donc il y a peut-être aussi des... Et après, bon, au bout d'un moment, voilà, ça m'est passé. On associe un moment de la journée à un... Enfin, vous voyez ce que le verre de vin, il est associé à la fin de la journée, la détente. Et je l'ai remplacé depuis. Mais ça a été... Voilà, il n'y a pas eu de moment de... Je me suis dit, ça me manque. Ce qui me manquait au début, là, le premier soir, je me suis dit, bah oui, c'est vrai que la détente, elle n'est pas là. Enfin, j'avais associé ce verre de vin à la détente, alors que pas du tout. Et on peut vite tomber là-dedans, peut-être.
Alors, effectivement, ça peut être après une habitude, mais là, dans ce que vous racontez, c'est qu'il n'y avait pas de dépendance, parce que le fait de pouvoir s'en passer et de dire, si j'ai pas mon verre de vin, c'est pas un problème et je fonctionne correctement, je n'ai pas de sueur, je n'ai pas de nausée, je ne deviens pas totalement irritable et effectivement, je n'ai pas besoin pour bien fonctionner d'avoir mon verre de vin, parce que sinon, je suis en manque, parce que c'est ça, les personnes dépendantes, c'est que elles ont un besoin tout de suite de consommer pour pouvoir se sentir détendue ou quoi, sinon ça ne va pas du tout et il y a une irritabilité qui peut, effectivement, dans les conséquences. J'en ai listé certaines, donc je reprends mes petits papiers parce qu'elles sont tellement nombreuses, mais ça va être anxiété, irritabilité, etc., etc., nausées, tremblements qui peut se produire. Donc, s'il n'y a pas de symptômes de sevrage à proprement parler, ça peut juste être une habitude et de se dire, comme on peut le prendre pendant les vacances, j'ai eu l'habitude de boire mon verre de vin, maintenant, je peux m'en passer. Si je ne l'ai pas, s'il n'y a aucun symptôme, il n'y a pas de problème de sevrage, c'est qu'il n'y a pas de dépendance. Ça, voilà. Après, il ne faut pas que la dépendance s'installe totalement et c'est là où la frontière est relativement mince, c'est faire attention. Après, j'allais dire, un verre de vin par jour, c'est pas forcément non plus énorme à partir du moment où il n'y a pas de conséquences négatives à la fois sur la santé, qu'il n'y a pas de problème digestif qui va se créer, de douleurs, de problèmes de sensations négatives et qu'il ne va pas y avoir non plus ce sevrage et cette dépendance psychologique qui fait que tant qu'on n'a pas son verre de vin, on va se sentir mal et que ça peut conduire à un comportement inadéquat. Donc le cas que vous décrivez, c'est une habitude, ça s'est calmé, pas besoin forcément, si on n'y a pas accès, c'est pas un drame non plus, quoi.
Moi tout de suite j'ai terminé, le soir je me suis dit c'est terminé, du coup maintenant je le fais le matin à jeun, tous les matins, comme ça je suis tranquille. Non, je plaisante évidemment, mesdames et messieurs, je plaisante. On se retrouve dans un tout petit instant pour la suite de cette émission avec Célia Morès sur Nutri Radio.
NHCO Nutrition est un laboratoire français, expert en micronutrition et spécialisé dans les compléments alimentaires formulés à base d'acides aminés.
Découvrez des compléments alimentaires hautement dosés pour améliorer votre santé et votre bien-être. Des gammes complètes pour vous aider à lutter contre la fatigue, le stress, vous aider dans vos objectifs minceurs ou encore pour améliorer la beauté de la peau et des cheveux. Profitez également de conseils personnalisés sur le site nhco-nutrition.com ou en pharmacie partenaire.
La sphère neuro, Célia Morès.
Boire un petit coup, c'est agréable. Boire un petit coup. Et l'addiction à l'alcool, on en parle aujourd'hui avec Célia Morès. Alcoolodépendant ou non, vous avez vu que la dépendance, hein, c'est pas forcément une question de quantité. Il y a aussi la fréquence à laquelle on boit. On peut se poser des questions. On va parler maintenant des mécanismes neurobiologiques et savoir ce qui se passe dans notre cerveau. Est-ce que c'est la fête du cerveau ?
Alors, bah écoutez, l'alcool. Le problème de l'alcool, c'est justement, quand on lit les articles dessus, écrits donc par les pharmacologues, etc., c'est qu'il y a beaucoup de conséquences au niveau neurobiologique et qui sont parfois pas très claires, parce que même si l'alcool, on va dire la substance, donc l'alcool va agir sur les mêmes récepteurs, ça va dépendre dans quelle région du cerveau il va agir. Donc c'est vrai que c'est toujours très très complexe et que c'est pour ça que c'est dur à comprendre et qu'il y a des effets un petit peu, on va le voir notamment sur les neurones GABAergiques, totalement différents suivant le lieu, la région cérébrale sur lequel l'alcool va se fixer. On va voir les effets de l'alcool et les effets que l'on connaît de l'alcool. Alors, ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau du système dopaminergique, bien évidemment, l'alcool, les personnes qui vont devenir dépendantes, elles vont surstimuler leur système dopaminergique. Il va y avoir une libération de dopamine plus importante. Alors, il va y avoir trois choses qui vont l'expliquer. C'est-à-dire qu'à un moment donné, effectivement, des chercheurs ont montré que l'alcool pourrait se fixer directement sur les neurones dopaminergiques, donc activer la libération de dopamine, mais aussi et surtout qu'il va se fixer à la fois sur les récepteurs GABAergiques au niveau des neurones GABAergiques, mais aussi sur les récepteurs opioïdes au niveau de ces neurones GABAergiques. Et en fait, ce qu'il faut savoir, c'est qu'en faisant cela, l'alcool va bloquer l'action des neurones GABAergiques. Or, les neurones GABAergiques sont, sont des neurones, finalement, le GABA est un neurotransmetteur qui permet d'avoir un effet un petit peu sédatif et de, comment dire, freiner la surstimulation du cerveau. Hein, c'est un effet un petit peu calme, sédatif, etc. Je freine cette surstimulation du cerveau. Et les neurones GABAergiques sont généralement là, c'est pas que leur seule action, mais au niveau des neurones dopaminergiques, ils sont là pour freiner l'action de la dopamine, pour éviter qu'elle soit trop libérée. Donc, ce qui va se passer, c'est que l'alcool, en évitant que les neurones GABAergiques fassent leur effet de frein, eh ben, elle va, en gros, c'est comme si une voiture, il n'y a plus de frein. Ou alors le frein fonctionne mal. Et de ce fait, la voiture continue à prendre de la vitesse. Et c'est ce qui va se passer, effectivement, au niveau du système dopaminergique. Libération de dopamine. Parce que, à la fois, ça peut surstimuler les neurones dopaminergiques. Mais aussi, ça va inhiber l'action frein des neurones GABAergiques. D'un autre côté, ce qui va se passer. Alors après, ça dépend aussi, notamment en aigu. En phase aiguë, en consommation aiguë et en consommation chronique. Donc, il y a toujours un petit aussi limite qui n'est pas toujours très claire. Qu'est-ce qu'on appelle aiguë ? Est-ce que c'est juste un one-shot ou est-ce que c'est la personne qui vient de consommer qui est déjà alcoolique et ensuite en chronique ? Ce qu'il faut savoir, c'est qu'au niveau de l'hippocampe, au contraire, sur les neurones GABAergiques, l'alcool va potentialiser les effets du GABA, ce qui va finalement avoir cet effet sédatif que l'on peut connaître de l'alcool, que les personnes aiment parfois quand elles consomment de l'alcool, c'est justement ce côté un peu sédatif, calme, etc. Tout simplement parce qu'au niveau de l'hippocampe, une des régions donc au niveau de l'hippocampe, en tous les cas, l'alcool va avoir cet effet-là, va potentialiser les effets GABAergiques, donc potentialiser les effets sédatifs effectivement de ces neurones, elles vont augmenter leurs effets, tout en diminuant effectivement les effets des neurones peut-être glutamatergiques qui sont plutôt stimulants. Donc forcément, la personne va avoir cet effet anxiolytique que les personnes ressentent lorsqu'elles consomment effectivement de l'alcool, les effets recherchés par notamment les alcoolodépendants. Et ce qui va se passer au niveau du sevrage, c'est qu'évidemment, comme il ne va plus y avoir d'alcool qui va être apporté, les neurones GABAergiques vont être moins stimulés, ça va créer une sorte d'anxiété justement, parce qu'en plus, en situation de sevrage, on va voir qu'il va y avoir libération à la fois effectivement de CRF, c'est-à-dire, enfin, le CRF, c'est c'est en fait l'hormone du stress qui est libéré par l'hypothalamus, qui va occasionner ensuite la libération de cortisol, et on va avoir une libération effectivement des hormones du stress qui explique qu'en situation de sevrage, les personnes alcoolodépendantes vont se retrouver irritables, stressées, etc. Parce qu'effectivement, il va y avoir le stress qui va finalement prendre le relais et il y aura moins de sédation, ce qui peut expliquer effectivement les effets du sevrage que l'on a vu, notamment irritabilité, saute d'humeur, etc., etc. Il y en avait d'autres, je peux vous les lister. Je reprends mes petites feuilles, voilà, anxiété, hyper-émotivité, humeur dépressive, parce qu'en plus, il va y avoir une libération massive de sérotonine, un problème avec la sérotonine. Donc, évidemment, les neurones, quelque part, vont pas se vider, mais en tous les cas, il va y avoir un problème à ce niveau-là, puisque pas assez de sérotonine non plus. Insomnie, cauchemar, hallucination, confusion mentale.
Rien que ça.
Voilà. Rien que ça, voilà, tout à fait. C'est assez compliqué, l'alcool, parce que ça dépend où ça agit. Et c'est une balance entre les deux et c'est pas toujours simple de s'y retrouver suivant le type de récepteur de la région cérébrale. Mais pour résumer, pour que tout le monde comprenne bien, voilà ce qui peut expliquer les effets.
Il y a un effet zombie, vous savez, de l'alcool. Zombie, c'est-à-dire que on prend de l'alcool et puis on va entraîner l'autre aussi. Souvent, c'est chez les jeunes. Hein. Oh, mais vas-y, oui. Prends un petit verre et tout. Il y a un petit côté comme ça, vous voyez ce que je veux dire?
C'est un petit peu le problème, effectivement, c'est que ça peut être aller boire, etc. Et c'est ce qui peut occasionner, justement, ça peut être un des facteurs de vulnérabilité qui fait que des personnes qui ne l'étaient pas vont, évidemment, peut-être le devenir parce qu'elles vont goûter, donc déjà mise en relation avec la substance, sinon il n'y a pas de risque d'addiction. Mais en plus, pour peu qu'elles soient entourées par des personnes qui forcent un petit peu, aller boire un verre, ça devient récurrent, et bien une addiction, évidemment, peut s'installer alors que d'elle-même, peut-être qu'elle ne serait pas devenue addiction. C'est alors, un petit peu le problème.
Oui. Et alors des fois, parce que là en plus on termine, les fêtes de fin d'année sont pas si loin. Des fois c'est même dans la famille. Moi quand j'étais plus jeune, ouais, petit verre. Et je trouve que il faut jamais, à mon sens, hein, après ça n'engage que moi, mais quand quelqu'un ne boit pas, ne serait-ce que dire vas-y bois, parce qu'on ne sait pas qu'est-ce que ça va déclencher chez lui. Et finalement, on va être peut-être à l'initiative de quelque chose d'hyper délétère. Donc même cette petite phrase pour dire « allez, bois un petit verre », non, moi je suis vraiment, je trouve que ça peut avoir tellement de conséquences. Qu'est-ce que vous en pensez ?
Ah, je suis tout à fait d'accord, c'est-à-dire qu'on ne se rend pas compte que parfois les boire, ça n'a pas de conséquence. Si, ça peut avoir une conséquence, en plus on ne sait pas non plus quelle est la vie des personnes, même dans une famille, on ne sait pas les personnes si elles n'ont pas des problèmes de santé et que justement il n'y a pas la possibilité d'eux. Donc c'est vraiment après de dire aux personnes de se justifier, et c'est quand même cognitivement dur à quelqu'un pendant les fêtes de se justifier. Donc si la personne ne veut pas boire, non, on n'est pas obligé de boire pour faire la fête, il n'y a aucune obligation. L'essentiel c'est d'être finalement, quand on a les fêtes, d'être avec les gens avec lesquels on a envie d'être, de partager un bon repas, et on peut boire totalement avec modération. Et c'est pas parce que c'est les fêtes qu'il faut se saouler et à non plus finir.
J'imagine. Voilà. À non plus finir. Quelles sont les conséquences de l'alcool sur la santé? On va enchaîner, tiens, tout de suite, Célia.
Alors, écoutez, les conséquences, en fait, finalement, de l'alcool sur la santé, il va y avoir plusieurs conséquences. Déjà, il y a des complications, on le sait. La personne qui va boire one shot, on va dire, allez, on a fait un peu la fête, on est un petit peu bourré, ça peut arriver à tous. Tous dans la jeunesse, probablement, qu'on a eu le phénomène, j'ai pris une cuite et j'étais bien bourré. Au départ, ça va nous faire rire quand on voit nos amis comme ça. C'est la phase d'excitation, c'est la phase des paris stupides, c'est la phase où finalement la parole se libère. Donc, ça peut être drôle. Et puis après, il y a le second effet, ce qui se coule, on va dire, c'est la phase d'incoordination motrice où la personne marche en ébriété, là elle marche pas droit, donc déjà ça commence à poser problème. Et la dernière complication dans ce qui est aigu, ça peut être évidemment le coma éthylique. Une personne qui boit trop va avoir un coma éthylique et peut-être ne plus se souvenir de ce qui s'est passé pendant la soirée. Donc là c'est ce qui peut se passer en one shot, donc c'est faire attention évidemment pour pas en arriver là, mais aussi il va y avoir d'autres types effectivement de complications. Alors je reprends mes petits papiers parce que c'est tellement nombreux. Évidemment, on va avoir un ralentissement général du système nerveux central, des effets de nausées, de somnolence, ça va avec, diminution de la motricité, des problèmes de mémorisation, des problèmes d'attention, des problèmes effectivement aussi, il va y avoir une augmentation de la mort neuronale. On sait que si on compare un cerveau d'une personne non addicts à une personne alcoolodépendante, on voit qu'il y a une atrophie de certaines régions cérébrales, c'est-à-dire que finalement, eh ben, il va y avoir une mort neuronale, donc il va y avoir ces neurones qui vont mourir, donc ça va poser problème pour le fonctionnement du cerveau, notamment pour les activités cognitives. Il va y avoir aussi la capacité de jugement qui va être affectée. Donc tout ce qui va toucher finalement la sphère cérébrale et la sphère cognitive qui va être affectée. Ça, c'est un premier point. D'un autre côté, évidemment, on va avoir aussi apparition des cancers. Donc, les cancers, va être aussi notamment les cancers des voies aérodigestives, les cancers du sein et les cancers du côlon et du rectum. Il y a eu des études qui ont montré qu'il y a des liens entre l'apparition du cancer du sein et la consommation d'alcool, pas forcément chez les alcoolodépendants d'ailleurs, mais la consommation d'alcool, si elle est un peu plus importante qu'il ne faudrait. Donc, des tremblements, des myalgies, des crampes aussi, des humeurs dépressives, des lésions aussi au niveau du foie. Donc, ça, c'est connu, toutes les lésions hépatiques, les cirrhoses, etc. Donc, ça, c'est bien, bien, bien documenté et c'est quand même attendu. Il va y avoir effectivement tout ce qui va être hypertension, troubles du rythme cardiaque, des problèmes de myocardique, des problèmes effectivement au niveau du cœur, des problèmes effectivement, comme je vous l'ai dit, de mémorisation. On a aussi le syndrome de Korsakoff qui est une amnésie assez importante et des confusions mentales, et au point que certaines personnes qui sont trop, on va dire, qui ont une trop forte dépendance à l'alcoolisme, c'est-à-dire les gros alcoolodépendants, va-t-on dire, eh ben effectivement, on peut se retrouver avec l'installation progressive d'un état confusionnel qu'on appelle Gaillé ou Wernicke. Et effectivement, pour traiter ces personnes-là, il faudrait notamment, au niveau nutritionnel, leur donner de la vitamine B1, parce que sinon, ça pourrait effectivement être létal. Et ensuite, il y a effectivement des problèmes des membres inférieurs avec des fourmillements au niveau de tous les membres inférieurs qui peuvent apparaître. Voilà le type de complications qui peuvent être liées finalement à l'alcool, à la consommation d'alcool.
Eh mec, ça, c'était pour nous donner le moral, mesdames et messieurs, mais on est dans la prévention, c'est ça, la prévention, et ça vous incite déjà au moins à modérer, à la réduire, voire à se dire, je vais faire une année 2025. D'ailleurs, on est en plein dedans, là, c'est le dry January, vous savez, quand on se dit, au mois de janvier, je ne bois pas une goutte d'alcool. Est-ce que vous faites ça, vous ?
Non, alors non, pas du tout, parce que en fait, justement, moi, pourquoi ? Alors, je ne le fais pas d'abord parce que je n'aime pas les restrictions et de me dire, à part si vraiment vous avez envie de le faire, et de me dire, parce que je me dis, est-ce qu'on tient ou est-ce qu'on tient pas, parce qu'on peut se retrouver en situation de, voilà, faudrait pas non plus qu'il y ait un appel de je suis tellement restrictif qu'après, j'ai la possibilité de et je consomme plus, parce que ça aussi, ça peut être un effet, hein, c'est comme un petit peu avec le sucre, ça peut être ce problème-là, mais aussi parce que effectivement, je bois rarement. Donc pendant les fêtes, évidemment, il y a toujours l'alcool. Ça m'arrive quand je fais de bons repas dans certains restaurants, effectivement, de consommer un verre, etc., parce que c'est la fête et le besoin. Mais sinon, moi, je sais que je consomme pas d'alcool, donc je me dis pourquoi le faire. Je préfère consommer quand j'en ai envie, si le besoin. Si l'occasion s'en faire sentir. Mais voilà, après, je peux comprendre que les personnes aient envie parfois aussi de mettre au vert son foie, si je puis dire, alors qu'on sait que il n'y a pas de programme détox réellement ni rien. Les nutritionnistes, vous le direz. Mais effectivement, ça peut être de se dire, j'ai fait quelques excès, bon, maintenant, je reprends mes habitudes saines, etc., pour pas me surcharger, pour pas être fatiguée. Et généralement, moi, je suis plutôt dans cette optique-là de me dire, on reprend mes habitudes que j'avais finalement avant les fêtes. Mais voilà, après, ça peut être sympa à faire, ça peut être un challenge à faire avec des amis et consommer de petites choses, ça peut être rigolo à faire aussi. Voilà, donc je sais pas si les auditeurs le font ou pas, mais ça dépend effectivement de la perception que l'on peut avoir. Mais se forcer à le faire, je suis pas sûre que ce soit une bonne idée, surtout si pour après, dès le 1er février, la personne va consommer une bouteille entière. Ça peut être problématique, alors que il vaut mieux peut-être le faire de temps en temps, prendre du plaisir et surtout sans restriction. Et c'est une question toujours de quantité.
Ah, vous en aviez gros sur la patate, hein. Là, vous aviez envie de dire ça.
Oh là, mais voilà,
c'est une justification en règle. Là, je peux vous dire.
C'est vrai, il ne faut pas se mettre de restrictions. C'est très mauvais pour psychologiquement, les restrictions.
Bon, allez, pas de restrictions. On se modère, mais on ne s'interdit rien vraiment, parce que c'est le meilleur moyen d'ailleurs de rester raisonnable. Merci beaucoup, Célia. Cette émission sera dispo à partir de dimanche, 18h, sur Nutri Radio et sur toutes les plateformes de streaming audio. À la semaine prochaine, Célia. J'espère qu'on sera
à la semaine prochaine,
en présentiel. Mon petit doigt me dit qu'on sera en présentiel. Allez.
Oh, j'espère.
C'est le retour de la musique tout de suite.
La sphère neuro. Célia Moresse. sur Nutri Radio.